Au Gondor, s'était probablement perpétué un important savoir traditionnel touchant les Palantiri, un savoir que les rois et intendants avaient dû préserver et se transmettre, même après qu'on eût cessé d'utiliser les pierres. Les pierres étaient un don inaliénable fait à Elendil et à ses héritiers, à qui seulement elles appartenaient et de plein droit. Mais cela ne signifiait pas que seuls les dits héritiers aient eu droit d'usage sur elles. Les pierres étaient légalement utilisables par quiconque en avait reçu une bonne et due autorisation, soit d'un héritier d'Anarion, soit d'un héritier d'Isildur, autrement dit, d'un roi légitime du Gondor ou de l'Arnor. Et normalement, c'était à ses délégués de les utiliser. Chaque pierre avait son propre gardien, dont l'un des devoirs était de la scruter à intervalles réguliers, ou lorsqu'il en recevait l'ordre, ou encore en temps de besoin. D'autres personnes étaient nommées également pour sonder les pierres, et les ministres de la couronne chargés plus particulièrement des renseignements les inspectaient régulièrement et à des occasions spéciales, rapportant toute information ainsi recueillie au roi et à son conseil, ou, le cas échéant, au roi dans son privé. Au Gondor, dans les derniers temps, à mesure que la fonction de l'intendant prenait de l'importance et devenait héréditaire, fournissant, dirons-nous, une doublure permanente du roi et un vice-roi immédiatement disponible en cas d'urgence, les pouvoirs de décision et d'utilisation des pierres semblent s'être concentrés entre les mains des intendants et les traditions, touchant leur nature et leur maniement, s'être maintenues et transmises dans leur maison. À partir de 1998, date à laquelle la fonction d'intendant devint héréditaire, l'autorité sur l'usage ou la procuration de faire usage des pierres vint de même à se transmettre légalement dans leur lignée. Et ainsi, Denethor les détenait-il de plein droit. Il convient cependant de noter à propos du récit qui figure dans Le Seigneur des Anneaux que primait en droit sur cette autorité déléguée, fût-elle héréditaire, tout authentique héritier d'Elendil, c'est-à-dire tout descendant reconnu d'un roi ou d'un seigneur souverain des royaumes numénoréens, lesquels, en vertu même de leur ascendance, avaient un droit prééminent d'utilisation, valable pour n'importe quel Palantir. C'est ainsi qu'Aragorn revendiqua le droit de prendre possession de la pierre d'Orthanc, puisqu'elle était à l'époque sans propriétaire ni gardien. Et aussi, parce qu'il était de jure le roi légitime, et du Gondor et de l'Arnor, et pouvait, s'il en décidait ainsi, et pour de justes causes, annuler en sa faveur toute concession préalable. La science des pierres s'est désormais perdue, et on ne peut guère la reconstituer que par conjecture et à partir de ce qui a été conservé à leur propos. Elles étaient parfaitement sphériques, paraissant, au repos, avoir été façonnées dans un seul bloc de verre ou de cristal d'un noir opaque. Les plus petites avaient environ un pied de diamètre, mais il y en avait de beaucoup plus grosses, et c'était le cas, très certainement, de la pierre d'Osgiliath et de celle d'Amon-Soul, et celle-là ne pouvait être transportée par un homme seul. Initialement, elles étaient posées sur un socle conforme à leurs dimensions et aux usages prévus. Une table basse en marbre noir, de forme circulaire, au creux d'une coupe centrale ou d'une cavité que l'on pouvait au besoin faire pivoter à la main. Elles étaient très lourdes, mais parfaitement lisses. Et si par accident ou vilainie elles étaient délogées et roulaient hors de leur socle, elles ne subissaient point de dommages. Et de fait, aucune violence dont était capable un homme de l'époque ne les pouvait briser. Mais d'aucuns pensaient que, soumises à une chaleur extrême, la chaleur de l'Orodruin par exemple, elles risquaient d'éclater, et que tel avait sans doute été le sort de la pierre d'Ifil lors de la chute de Barad-dûr. Bien qu'elles ne fussent marquées d'aucun signe extérieur, elles comportaient des pôles permanents, et elles étaient logées en leur site de manière à se tenir droite. Leur diamètre, d'un pôle à l'autre, pointait alors vers le centre de la Terre, à condition toutefois que le pôle permanent inférieur se trouvât au-dessous. C'est en cette position que les faces disposées le long de la circonférence devenaient les faces réceptrices, accueillant les visions de l'extérieur et les transmettant à la vue du scrutateur placé du côté opposé. Ainsi, le scrutateur qui désirait voir l'ouest s'installait du côté est de la pierre, et s'il désirait transférer sa vision vers le nord, il lui fallait se déplacer vers sa gauche, en direction du sud. Mais les pierres mineures, celles d'Orthanc, d'Ifil et d'Anor, et probablement celles d'Anuminas, avaient également, en leur site d'origine, une orientation fixe, de telle sorte que leur face ouest, par exemple, était tournée uniquement vers l'ouest, et manœuvrée dans une autre direction, ne reflétait plus rien. Si une pierre avait été gauchie ou bousculée, on pouvait rétablir son équilibre par l'observation, et il fallait alors la faire pivoter sur elle-même. Mais si elle avait été démise de son socle et jetée à terre, comme ce fut le cas pour la pierre d'Orthanc, il était beaucoup plus difficile de la remettre en place. Et ce fut donc par pur hasard, comme disent les hommes, ou comme aurait dit Gandalf, que Pérégrin, tâtonnant maladroitement la pierre, réussit à la placer plus ou moins droite au sol, et qu'assis à l'ouest de l'objet, il se trouva avoir la face fixe reflétant l'est dans la position adéquate. Les pierres majeures n'avaient pas de telles contraintes. On pouvait les faire pivoter, et n'en voyaient pas moins dans toutes les directions. Laissés à eux-mêmes, les Palantiri ne pouvaient que voir. Ils ne transmettaient aucun son. Et non soumis à un esprit pour les guider, ils se faisaient volontiers fantasques, et leur vision était, du moins en apparence, parfaitement fortuite. Placés sur une hauteur, leur face ouest pouvait, par exemple, réfléchir les lointains, ne livrant qu'une vision confuse et déformée des plans supérieurs, inférieurs et latéraux, et un premier plan totalement brouillé par les objets qui se dérobaient dans une clarté toujours plus diffuse. Et il arrivait aussi que le hasard, l'obscurité, ou le phénomène dit de « voilage », orienta ou offusqua tout ce qu'il donnait à voir. La vision des Palantiri n'était nullement aveuglée ou occultée par les obstacles physiques, mais uniquement par les ténèbres, de sorte qu'ils pouvaient voir à travers une montagne, tout comme ils le faisaient à travers un pan d'obscurité ou une ombre, sans rien discerner à l'intérieur qui ne fût éclairé. Ils étaient donc capables de passer outre, mais sans rien pouvoir distinguer de ce qui se trouvait dans les chambres, grottes ou caveaux, à moins qu'une lumière n'éclairât la scène. Mais ils n'avaient pas eux-mêmes pouvoir de fournir ou de projeter aucune lumière. On pouvait se dissimuler à leur vue par le procédé dit de voilage, au moyen duquel certaines choses ou lieux se reflétaient dans une pierre, mais seulement comme des ombres ou sous un épais brouillard. Comment cela se put faire, uniquement par ceux qui connaissaient les pierres et la possibilité d'être surveillés par elles, demeure l'un des mystères perdus des Palantiri. L'observateur pouvait, à volonté, forcer la pierre à se concentrer sur un certain point placé sur sa ligne de vue directe ou à proximité. Les visions, non contrôlées, étaient de petite dimension, surtout pour les pierres mineures. Cependant, elles s'accroissaient considérablement aux yeux de l'observateur qui se plaçait à bonne distance du Palantir, environ 3 pieds tout au plus. Mais soumises à la volonté d'un scrutateur habile et endurant, les choses plus lointaines pouvaient être agrandies, et comme rapprochées et rendues plus nettes, et leurs arrière-plans effacés. Vu de très loin, un homme pouvait ainsi paraître comme une minuscule silhouette, haute à peine d'un pouce, difficile à distinguer sur un fond de paysage ou de foule, mais un effort de concentration permettait d'élargir et de clarifier la vision jusqu'à ce que le personnage se présentât en toute clarté, bien que réduit dans le détail, comme une image d'environ 1 pied de haut, ou un peu plus, susceptible néanmoins d'être identifiée, à supposer que le scrutateur l'ait connu. Et par un processus d'intense concentration, le scrutateur pouvait même agrandir certains détails qui l'intéressaient, et parvenir à distinguer, par exemple, si le personnage portait un anneau au doigt. Mais cette concentration était très fatigante, voire éprouvante. On s'y livrait donc seulement lorsqu'il était urgent d'obtenir l'information souhaitée et que le hasard, peut-être corroboré par d'autres renseignements, permettait au scrutateur de choisir au sein du chaos d'images que lui offrait la pierre les éléments voulus, pour lui significatifs et qui concernaient ses préoccupations immédiates. Par exemple, Denethor, assis devant la pierre d'Anor, inquiet au sujet du Rohan et cherchant à décider s'il devait ou non ordonner l'embrasement des feux d'alarme et l'envoi de la flèche, pouvait se placer sur une ligne tendant vers le nord-ouest, passant par l'ouest, à travers le Rohan et à proximité d'Edoras, et ainsi jusqu'au guet de l'Isène. En ces jours-là, on devait pouvoir discerner des mouvements d'hommes sur cette ligne. Dans ce cas, Denethor pouvait se concentrer sur, disons, tel ou tel groupe, venir à les identifier comme des cavaliers, et finalement découvrir parmi eux tel personnage connu de lui. Gandalf, par exemple, chevauchant à la tête de renfort en direction de la gorge de Helm et qui, soudain, se détachait du groupe pour filer vers le nord. Les Palantiri n'avaient pas capacité de percer à jour l'esprit d'un individu, à l'improviste ou contre sa volonté. car la transmission de pensée dépendait de la volonté des usagers de l'un et l'autre côté, et la pensée, reçue sous forme de parole, était transmise d'une pierre à l'autre seulement si les pierres en question étaient accordées.